Bienvenue sur le podcast Portrait de génie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du compositeur français Maurice Ravel. Maurice Ravel est né le 7 mars 1875 à Paris et il est mort également dans la même ville le 28 décembre 1937. Donc avec Claude Debussy, Ravel est clairement celui qui modernise totalement la musique française et la musique classique en l'amenant directement au XXe siècle. C'est quelqu'un qui est assez proche du courant dit impressionniste et qui amènera toutes ses influences, que ce soit celle de Couperin ou de Rameau, à des couleurs et des rythmes de jazz et notamment des couleurs très hispaniques. Voilà, il arrivera dans sa musique à une synthèse de toutes ces influences et de tout ce modernisme. Alors Maurice Ravel est né dans une famille de Saint-Jean-de-Luz, enfin en tout cas près de Saint-Jean-de-Luz. Son père était ingénieur de lignes de chemin de fer et également dans l'industrie automobile et sa mère était femme au foyer. Il a vécu une enfance heureuse avec des parents plutôt attentionnés, cultivés et assez familiers des milieux artistiques qui lui donnèrent très tôt un éveil musical. Il commence l'étude du piano à l'âge de 6 ans sous l'égide du compositeur Henri Gis et reçut ses premiers cours de composition de Charles René par la suite, harmonie bien sûr et contrepoint. Alors Maurice Ravel est très doué et ça fait le bonheur de ses parents, même s'il avouera plus tard avoir été extrêmement paresseux dans la façon d'étudier la musique, ce qui en dit long sur l'immense talent et prodige de ce compositeur. Il entre au Conservatoire de Paris en novembre 1889, dont il est l'élève de Charles de Berlioz. À l'époque, il se lie d'amitié avec le pianiste espagnol Ricardo Vines, qui devint l'interprète attitré de ses meilleures œuvres et avec qui il rejoignit plus tard la Société des Apaches. Il essaye de s'ouvrir à beaucoup de musique à l'époque et il est particulièrement enthousiaste avec la musique de Chabrier, celle de Satie également. C'est un immense admirateur de Mozart, de Saint-Saëns, de Debussy, mais également par des lectures. Il est influencé par Baudelaire, par Edgar Allan Poe, par Villiers de l'Isle-Adam et surtout par Stéphane Mallarmé. Bien qu'ayant beaucoup d'influence, il se détache assez rapidement pour avoir son propre caractère et développer ses premières compositions avec sa propre personnalité. Ses premières compositions comme « Ballade de la reine morte d'aimer » en 1893 ou « Sérénade grotesque » peuvent en témoigner. En 1897, il entre dans la classe de contrepoint d'André Gédalge et de celle de Gabriel Fauré pour la partie « Composition ». Gabriel Fauré apprécie cet élève qui est Ravel et l'estime des deux artistes sera réciproque tout au long de leur vie. Fauré introduit Ravel dans le salon de Madame de Saint-Marceau qui adorait découvrir de nouveaux talents. À la fin de ses études, Ravel composa une ouverture symphonique pour un projet d'opéra baptisé Scheherazade. Ouverture créée en mai 1899 sous les sifflets du public. C'est à cette même époque qu'il compose sa célèbre pavane pour une infante défunte, qui reste une de ses œuvres les plus jouées, même si Ravel ne l'appréciait pas beaucoup. En ce début de XXe siècle, Maurice Ravel est un compositeur reconnu. Cependant, son accession à la célébrité n'est pas forcément aisée. L'audace de ses compositions et son admiration proclamée pour des gens comme Chabrier ou Satie allait lui valoir pas mal d'inimitié parmi le cercle des traditionalistes. Il s'essaye au prix de Rome et essuie 5 échecs. Il n'obtint qu'un deuxième second grand prix en 1901, malgré des éloges de Camille Saint-Saëns, alors membre du jury. Dès 1901, il affirme pour de bon sa personnalité avec la création des Jeux d'eau pour piano, qui est une pièce très inspirée par Franz Liszt, qui lui valut l'étiquette de musicien impressionniste. Alors forcément influencé et beaucoup comparé avec Debussy, dont il est contemporain, les deux hommes, bien que leur relation fût cordiale, prirent leur distance jusqu'à la fin de leur vie. Cependant, Ravel indiquait très souvent combien il estimait Claude Debussy. Donc à cette époque, il personnalise encore plus son style avec un goût prononcé pour les sonorités hispaniques et orientales, pour un exotisme, pour le fantastique, le perfectionnisme, un certain raffinement mélodique et la virtuosité du piano. Entre 1901 et 1908, il y a une période particulièrement féconde, avec notamment un quatuor à cordes en fa majeur, avec les miroirs et la sonatine pour piano en 1905. On a également les histoires naturelles d'après Jules Renard en 1906, la rhapsodie espagnole en 1908 et la suite pour piano Mamerlois en 1908, ainsi que son grand chef-d'œuvre pianistique Gaspard de la Nuit, également écrit en 1908. En avril 1909, il se rend à Londres et s'aperçoit que il est très apprécié outre-Manche. En 1910, il fonde avec Charles Koechlin et Florent Schmitt la Société musicale indépendante qui a été créée pour promouvoir la musique contemporaine par opposition à la Société nationale de musique qui était à l'époque plus conservatrice et qui était présidée par Vincent d'Indy. Cette société musicale indépendante avait pour but de faire connaître la musique de la jeune école française, mais également d'autres compositeurs avant-garde peu diffusés en France. C'est à l'époque que Ravel invita le jeune Béla Bartok. En 1911, il participa également à la création de la Société Chopin. À partir de 1910, deux de ses œuvres majeures lui donnèrent quelques difficultés. L'heure espagnole, qui est son premier ouvrage lyrique, qui fut achevé en 1907 et créé en 1911, fut très mal accueilli par le public et par la critique, lié certainement à un humour assez libertin et une orchestration assez audacieuse. L'œuvre dut attendre les années 1920 pour devenir enfin populaire. Parallèlement, pour répondre à une commande de Serge de Daguilef, dont les ballets russes triomphaient à Paris, Ravel composa à partir de 1909 le ballet Daphné et Chloé. Alors c'est une symphonie chorégraphique qui utilise des chœurs sans paroles et qui est une vision de la Grèce antique que Ravel voulait proche de celle que les peintres français du XVIIIe siècle avaient donnée. Cette œuvre, qui est la plus longue du compositeur, 70 minutes environ, fut très laborieuse dans sa composition et l'accueil du public fut assez inégal. Le 29 mai 1913, Ravel fait partie des défenseurs de Stravinsky lors de la création tumultueuse du Sacre du Printemps au Théâtre des Champs-Élysées. Cette période d'avant-guerre est considérée comme la plus heureuse par le compositeur. Lors de la Première Guerre mondiale, le compositeur chercha à s'engager, mais il avait déjà été exempté de service militaire en 1895 car il était de faible constitution, 1m61. Il fut également refusé pour être trop léger de 2 kg, il ne pesait que 48 kg. Dès lors, cette période devint une torture pour Ravel car le poussant à l'inaction, il chercha quoi qu'il arrive à essayer d'aider le pays pour finalement être incorporé comme conducteur d'un camion militaire qu'il surnomma Adélaïde et il fut envoyé près de Verdun en mars 1916. Bien que patriote et engagé dans la Première Guerre mondiale, à l'époque il fit une démonstration de sa probité artistique en refusant de prendre part à la Ligue nationale pour la défense de la musique française qui était une organisation autour de musiciens comme Vincent d'Indy, Camille Saint-Saëns et Alfred Cortot et qui entendait faire de la musique un outil de propagande nationaliste, notamment en interdisant la diffusion en France des œuvres allemandes et austro-hongroises. Ravel à l'époque leur répondit le 7 juin 1916 « Je ne crois pas que pour la sauvegarde de notre patrimoine artistique national, il faille interdire d'exécuter publiquement en France des œuvres allemandes et autrichiennes contemporaines non tombées dans le domaine public. Il serait même dangereux pour les compositeurs français d'ignorer systématiquement les productions de leurs confrères étrangers et de former ainsi une sorte de coterie nationale. Notre art musical, si riche à l'heure actuelle, ne tarderait pas à dégénérer, à s'enfermer en des formules poncives. Il m'importe peu que M. Schoenberg, par exemple, soit de nationalité autrichienne. Il n'en est pas moins un musicien de haute valeur dont les recherches pleines d'intérêt ont eu une influence heureuse sur certains compositeurs alliés et jusque chez nous. Bien plus, Je suis ravi que messieurs Bartok, Kodály et leurs disciples soient hongrois et le manifestent dans leurs œuvres avec tant de saveur. En Allemagne, à part monsieur Richard Strauss, nous ne voyons guère que des compositeurs de second ordre dont il serait facile de trouver l'équivalent sans dépasser nos frontières. Mais il est possible que bientôt de jeunes artistes s'y révèlent, qu'il serait intéressant de connaître ici. D'autre part, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire prédominer en France et de propager à l'étranger toute musique française, quelle qu'en soit la valeur. Vous voyez, messieurs, que sur bien des points, mon opinion est assez différente de la vôtre pour ne pas me permettre l'honneur de figurer parmi vous. Alors, je trouve cette réponse vraiment extraordinaire. C'est pour ça que j'ai voulu la citer intégralement. C'est pour moi ce qui fait la différence entre un grand compositeur et un génie. Non seulement Ravel révolutionne la musique classique du début du XXe siècle, mais il sait également se positionner philosophiquement, socialement, politiquement et avec une grande conscience artistique. Donc pendant la guerre, il tombe malade, vraisemblablement d'une dysenterie, puis d'une péritonite. Il est opéré le 1er octobre 1916 avant d'être envoyé en convalescence et donc démobilisé en mars 1917. En janvier de la même année, sa mère décède, ce qui le plonge encore plus dans le désespoir. Il est profondément abattu et met plusieurs années à surmonter son chagrin. Après cette période, la musique classique prend un virage dit néoclassique avec l'arrivée de Prokofiev, sa symphonie classique, et Stravinsky avec Pulcinella. Il participa donc à ce virage dans la façon d'orchestrer les œuvres, grâce également notamment à un dépouillement poussé à l'extrême, des innovations rythmiques et techniques qu'il récupère un petit peu de différentes influences étrangères. Après la mort de Claude Debussy en 1918, Ravel est donc désormais considéré comme le plus grand compositeur français vivant. Il a une notoriété qui explose, notamment à l'étranger, qui le fait beaucoup tourner. Il avait un certain sens de l'humour par rapport à sa célébrité. Il déclara un jour en 1928 à propos du public qui l'acclamait: ce n'est pas moi qu'ils veulent voir, c'est Maurice Ravel. Il eut également une réaction désinvolte lorsqu'il fut promu au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Il ne répondit même pas à l'annonce et obtint d'être radié d'ailleurs du journal officiel. Satie, qui s'était brouillé avec lui depuis 1913, s'en amusa dans une boutade célèbre. Ravel refuse la Légion d'honneur, mais toute sa musique l'accepte. Au début des années 20, il s'acheta une maison du côté de Montfort-l'Amaury, à 30 km de Paris, et c'est là qu'il conçut la majeure partie de ses dernières œuvres. La dernière partie de sa vie fut consacrée à une vie paisible, entrecoupée de séjours au Pays Basque et de tournées de concerts en France et à l'étranger, où il se produisait comme pianiste, soliste, accompagnateur ou chef d'orchestre. Bien que solitaire et pudique, le musicien avait une grande vie sociale et sa correspondance témoigne d'une très grande fidélité, notamment en amitié. Il était l'ami proche de compositeurs comme Maurice Delage, Arthur Honegger, Jacques Ibert, Florent Schmitt, Germaine Taillefer, d'interprètes comme Marguerite Long, Robert Casadesus, Jacques Février, Madeleine Gray, le sculpteur Léon Leritz et ses deux fidèles élèves Roland Manuel et Manuel Rosenthal. Les photos que Ravel nous laisse montrent l'image d'un dandy. Cependant, il ne se maria jamais et aucune relation sentimentale, que ce soit féminine ou masculine, ne lui est connue. À la fin des années 20, lors d'une tournée américaine, il se produit aux États-Unis et au Canada, et chaque ville visitée lui vaut un immense succès. Où il se produisait à l'époque comme pianiste. À New York, il découvre les clubs de jazz de Harlem et se fascine pour les improvisations du jeune George Gershwin, auteur 4 ans plus tôt de la retentissante Rhapsody in Blue. L'année 1928 est également l'année de composition et de création du Boléro, son œuvre la plus célèbre et la plus jouée. Cette œuvre devint rapidement un immense succès planétaire. Elle fut également gravée sur disque. Cette œuvre est vraiment singulière car elle tient le pari de durer plus d'un quart d'heure avec seulement deux thèmes et une ritournelle inlassablement répétée. Bien que le succès lui faisait, j'imagine, un certain plaisir, il était quand même assez exaspéré d'un succès aussi phénoménal pour une partition qu'il disait vide de musique. À propos d'une dame qui criait "Oh fou !" après avoir entendu l'œuvre, le compositeur affirma simplement "Celle-là, elle a compris." Dans les dernières années de sa vie, il compose deux concertos pour piano et orchestre qui apparaissent comme une synthèse de son art, combinant à la fois une forme classique et un style moderne empruntant au jazz. Après ces périodes fastes, Maurice Ravel tomba subitement malade avec les premiers signes d'une maladie cérébrale incurable qui allait le condamner au silence pour les 4 dernières années de sa vie. Cette maladie lui valut des troubles de l'écriture, de la motricité et du langage. Malgré cela, son intelligence était préservée, il continuait de penser sa musique sans plus pouvoir ni l'écrire ni la jouer. Alors apparemment, ce serait un traumatisme crânien consécutif à un accident de taxi dont il fut victime en octobre 1932 qui aurait pu précipiter les choses. Ravel était aussi un très grand fumeur et également un insomniaque récurrent. Aujourd'hui, c'est la thèse d'une atrophie cérébrale dégénérative proche de la maladie de Pick qui est actuellement privilégié. Maurice Ravel décéda le 28 décembre 1937 à l'âge de 62 ans. Le soir même, son élève Manuel Rosenthal devait diriger L'Enfant et les Sortilèges. L'exécution fut extrêmement émouvante, toute de recueillement et de tristesse devant un public bouleversé. Au balcon de la salle se trouvait Igor Stravinsky, dont le visage était ravagé de tristesse. La mort de Ravel provoqua dans le monde une très grande émotion que la presse relaya dans un hommage unanime. Je vous invite à parcourir son œuvre, bien que tout le monde connaisse le Boléro de Ravel. Il y a tant de choses à découvrir dans la vie et dans les œuvres de cet éblouissant compositeur. Je vais terminer, comme à l'accoutumée, par une citation du compositeur. Je n'ai jamais éprouvé le besoin de formuler, soit pour autrui, soit pour moi-même, les principes de mon esthétique. Si j'étais tenu de le faire, je demanderais la permission de reprendre à mon compte les simples déclarations que Mozart a faites à ce sujet. Il se bornait à dire que la musique peut tout entreprendre, tout oser et tout peindre, pourvu qu'elle charme et reste enfin et toujours la musique.